Juste une bonne heure. Tu devais chanter pendant 2-3 minutes. Là, c'est quoi cette histoire?
Bienvenue dans LDR, Ligue dissoute reconstituée. Donc, on explique un petit peu le principe.
Ouais, démerde-toi.
Ah, présente-toi peut-être déjà. Quoi.
Ouais, bon, Thierry Falcoz.
Julien Charpentier.
Demi-François.
Donc voilà, on est la Ligue dissoute. On est la Ligue dissoute de Game One.
Ouais, ou de Game One.
Enfin, la dernière.
On est des anciens combattants de la chaîne qui ont tous les trois quitté.
Non, tout à fait, tout à fait. Non, mais c'était pour expliquer en fait le concept de l'émission un petit peu.
D'accord, bah continue. On t'écoute, on est pas sûr.
Voilà. Et donc, on est là pour partager un petit peu des souvenirs sur Game One. Parler de notre expérience commune là-bas et puis ensuite aborder peut-être notre quotidien d'aujourd'hui.
En fait, il donne le menu à l'envers, lui.
Ouais, non, mais
je crois qu'on était censé commencer par ce qu'on faisait maintenant parce que, quand même, il faut dire que c'est.
Tu respectes pas le programme.
Je sais plus, en fait. Mais c'est vrai qu'il faut dire que ce truc-là a été organisé par Alex qui travaille avec nous à Game One, qui est un de nos cadreurs dont on vous a souvent parlé.
Merci les docs, merci tout, merci la beauté de la chaîne quand
il y avait
des cadres d'Alex.
Plans sur Game One, c'était souvent grâce à lui, faut le dire. Hein. Bien joué, Alex, c'était un bon.
On l'appelle Tower Shack. Hein.
On l'appelle Tower Shack entre nous. Ou Sport Billy, parce que, bon, pour les plus vieux d'entre vous, il a toujours un tout dans son sac, y compris un fer à souder. Ce mec est flippant.
Ouais.
Voilà.
Et puis un matériel complet pour faire une émission radio aussi.
Ouais, aussi. Absolument. Ouais.
Dans sa poche droite.
Bon, ça, c'est un son qu'il met quand il trouve que nos vannes sont pas drôles, ce qui arrive relativement souvent.
Et qu'on devrait avancer dans le programme.
Il faut pas le vanner aussi.
Voilà. Donc voilà, effectivement, l'idée, c'est de se retrouver un petit peu, de vous dire un petit peu ce qu'on est devenu, si ça vous intéresse. Sinon, c'est peut-être pas la peine d'écouter ça en même temps.
Et donc, merci, au revoir.
Voilà.
À tous.
Et on va commencer, honneur au plus vieux, je pense. Hein. Thierry, toi, t'es parti de Game One quand? Bah, t'es le plus
c'est
vieux.
C'est vrai que t'es le plus vieux,
putain. Pas de beaucoup, quand même, de quelques mois, je tiens à préciser.
Ouais, mais t'es le plus vieux quand même. Donc, t'es parti de Game One quand, toi?
Moi, je suis parti, en fait, il y a 3 ans maintenant, je pense.
Donc, en 2005. À l'été 2005,
ouais,
c'est
2005,
ça?
Ouais, c'est ça.
D'accord, Tommy, toi?
Moi, je suis parti il y a, je pense.
Donc, tu veux que je t'aide,
19-20 mois. Okay. 20 mois. Un an et demi, quoi. Un an et demi, deux ans.
Ouais, t'es parti en octobre 2007, en octobre 2006, hein, je vais t'aider un petit peu.
Et... Comment est-ce qu'on l'appelle, lui, déjà?
Blaireau.
Ouais.
Je t'emmerde. Et moi, je suis parti donc en mai l'année dernière. Et puis, on est tous partis effectivement les uns après les autres. Il y a beaucoup de gens qui se sont un petit peu demandé pourquoi on était partis, pourquoi on avait décidé de quitter la chaîne. Bah, tout seigneur, tout honneur, vas-y.
Attends, c'est moi qui commence.
Mais attends, oui.
Honneur au plus vieux une nouvelle fois, ok. Moi, il y avait pas mal d'or. Il y avait plusieurs raisons. Il y avait des raisons personnelles liées à de la fatigue. Et puis, il y avait aussi des raisons professionnelles liées au fait que la chaîne avait changé un petit peu d'orientation.
Mm-hmm.
Et pour parler un peu moins de jeux vidéo. Et c'est vrai que mon truc, moi, plutôt, c'est le jeu vidéo.
Oui, donc, c'est vrai.
J'étais là, en fait, pour parler de ça.
Mm-hmm.
Et donc, au final, quand j'ai vu qu'on n'allait pas dans cette direction-là, il était temps de partir et de passer à autre chose.
D'accord, ok. Et toi, donc, Tommy, ça s'est passé comment?
Ouais, c'est parce que je pouvais plus porter ta gueule, quoi.
En même temps, je comprends. Hein. T'as vu ma gueule tous les jours pendant 4-5 ans, je sais plus exactement. J'ai vu la tienne aussi, ça n'a pas été marrant. Hein.
Voilà,
parce qu'on bossait dans des bureaux l'un à côté de l'autre, faut le savoir.
C'est-à-dire que j'étais en face de Thierry et que Julien était notre bitch, donc juste à notre gauche.
Oui, parce qu'il y avait une hiérarchie à Game One, hein, et le patron, c'était Tommy. Hein, je sais, c'est triste, mais c'était comme ça.
C'est parce qu'il avait les cheveux rouges, hein, on n'avait pas le choix. Hein.
C'est pour ça, il n'a pas eu les cheveux que rouges, hein, il a eu c'est bleu, rose...
Mais quand même, tu peux aussi dire maintenant, tu peux en parler, des harcèlements multiples à coups de test que tu détestes.
Oui, ça, il me faisait le coup relativement souvent.
C'était pas moi, c'est surtout Thierry.
Quand je l'ai ramené un peu trop, il me filait des tests de merde. Hein, ça, Big Mother Trucker, je m'en souviens encore, merci Thierry.
C'était un bon jeu, non?
C'était un jeu de merde. Ça te fait marrer en plus, toi.
Ouais, moi, je trouvais ça plutôt sympa.
Voilà, et donc, c'est vrai que Thierry, toi, t'as décidé de partir parce que, bon, la chaîne changeait.
Tout à fait.
Et ensuite, si je me souviens bien, t'as décidé de glander comme une merde pendant plus d'un an, c'est bien ça?
Ah, je me suis reposé, ouais, carrément, parce que 3 ans de Game One, ça a été sérieusement épuisant.
Mm-hmm.
Et ouais, j'ai fait une petite pause, je suis parti en Guadeloupe.
Une petite pause d'un an.
Ouais.
Ouais, t'appelles ça une petite pause, toi.
Ah, ça dure un an.
Ouais, c'est ça dure un an pour moi.
Non, mais dans la vie d'un geek, c'est tout à fait normal. C'est des moments de recueillement envers Zelda, envers Mario, Yoshi. C'est aussi des moments où tu peux te recueillir et passer du temps avec eux.
C'est un truc que j'aime bien faire, moi. Après une grande expérience, enfin une expérience professionnelle qui a duré plusieurs années, c'est de me reposer.
Ah, bah, ça m'a pris le temps de te
faire une petite coupure. Non, c'est bien.
Mm-hmm.
Je pense que c'est important pour son équilibre personnel.
Et ensuite, t'es passé à quoi? T'es revenu dans le monde du jeu vidéo? T'es revenu à la presse papier? T'es revenu à la télé? Enfin, je sais tout ça, mais c'est pas pour moi que je pose la question, en fait.
En fait, derrière, je suis resté quand même. L'expérience Game One m'a donné un intérêt certain pour tout ce qui est traitement vidéo du jeu vidéo, donc de passer par l'image qui bouge.
Mm-hmm.
Donc le texte, j'avais un peu fait le tour de la presse papier, de la presse internet aussi. Donc je voulais continuer dans ce côté-là. et continuer à faire des petits docs, les choses que j'appréciais plus en fait à Game One. Et donc je suis passé freelance, j'ai bossé pour plusieurs chaînes télé, Europe 2 TV, Virgin 17 maintenant, Eurosport, et puis j'ai continué d'ailleurs à faire quelques fois du doc pour Game One via des boîtes de prod.
Et donc toujours et uniquement jeux vidéo, t'as jamais rien
toujours,
fait d'autre.
Ouais, je suis toujours resté dans le jeu. Et si, ensuite, oui, j'ai fait aussi une émission sur le cinéma asiatique.
Oui, donc, bah, geek un jour, geek toujours, hein, définitivement.
Donc pas que du jeu vidéo, en fait, il y a des petites exceptions. Et ça, c'était sur No Life.
Ça, c'était sur No Life, sur laquelle tu travailles maintenant.
Tout à fait. Ouais. On reviendra ça plus tard, peut-être.
Ouais, bien sûr.
Parce que, bon. Et ensuite, et vous, pourquoi vous êtes parti en fait?
Parce que je ne pouvais pas faire ta gueule non plus.
Donc les arguments de Tommy sont toujours aussi évolués.
Voilà. Non, moi c'est un peu pour les mêmes raisons que Thierry. C'est par accident que je suis arrivé à Game One, par passion du jeu vidéo. Et puis c'est trouvé que d'un seul coup, on se retrouvait à parler de sa passion à la télé, à des gens.
C'est quand
et
même plutôt cool, hein.
C'était quand même plutôt génial et ouais, plutôt cool.
D'ailleurs, t'es arrivé comment en fait sur Game One? Ça, c'est pas mal aussi, parce que le départ, ok, mais l'arrivée.
Mais l'arrivée, ouais, voilà.
Il faut raconter que.
Parce que toi, t'es resté combien de temps au final? Moi, je suis resté 3 ans, toi, c'était au moins 4 ans et demi.
4 ans et demi, à peu près, ouais. Moi, je suis arrivé un peu grâce à toi, en fait. Je sais pas si t'es jamais aperçu, en fait. Tu m'avais eu. Parce qu'avec Thierry, on se connaît depuis genre.
Depuis Presse Images. Donc depuis première expérience dans le milieu du jeu, de la presse jeu.
14 ans, 15 ans. 15 ans. Donc voilà. Donc,
ouais, je vous confirme,
et donc comme on est amis dans la vie et tous ces trucs-là, tu avais l'habitude de m'envoyer des annonces, je sais pas, quand
oui, tout
tu
à fait,
des
ouais.
taf ou des trucs
ouais.
comme ça. Et à l'époque, je rentrais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais bossé dans un studio d'animation avant qui s'appelait Xilam sur des nouveaux médias, faire des sites, des gens flash, enfin, différents trucs, monter des projets. Et tu m'avais passé le numéro d'une nana qui cherche, qui avait des postes, et j'avais été la voir pour faire de la production dans le jeu vidéo, parce que je voulais retourner. Avant, j'habitais aux États-Unis où j'avais fait du jeu vidéo. Et c'était un moment où le jeu vidéo se portait mal, c'est quand Callisto a fermé, quand tous ces trucs-là, c'était chaudard de trouver du taf en France. Et elle m'avait demandé derrière, comme elle savait que j'avais une expérience journalistique et tout ça, de lui donner des profils de journalistes. J'avais envoyé plein de gens. Et sur le coup, je crois que je ne savais même pas que c'était Game One. En fait, on m'a juste dit, c'était une chaîne de télé. Et elle m'a rappelé, elle me dit, bon, en fait, c'est pas ce type de profil qu'il faut, c'est quelqu'un qui a fait de la prod de jeux vidéo et du journalisme. Et puis, sur le coup, je voulais pas, parce que j'ai envoyé des potes, donc c'était dur. Je les ai vus le week-end, ils m'ont dit, t'es teubé, parce que de toute façon, on n'a pas été retenu, donc t'y vas. Et je suis allé, et puis d'un seul coup, voilà, tu te retrouves à parler de ta passion comme ça. Et puis, au fil des années, c'est comme toi, bon, c'est fatigant, mais moi, j'ai kiffé, c'était génial, c'est plus. Quand tu n'as plus trop les moyens d'en parler comme tu désires en parler, c'est plus la peine parce que tu ne fais pas ça pour la télé, tu fais ça pour. Même si moi je kiffais absolument ce rapport-là et la chance de pouvoir en parler à des gens comme ça, de trucs qui te passionnent, mais vraiment au plus haut point. Donc je ne dis pas du tout que je ne prenais pas plaisir à être à l'antenne ou à des trucs comme ça, je prenais un plaisir fou parce que c'est une chance de malade.
J'ai toujours plus kiffé d'être devant la caméra aussi.
Moi j'adorais les deux, quoi. C'est l'occasion de. Dire j'aime le jeu vidéo à tout le monde quoi. Donc, en
d'ailleurs
fait,
moi j'aurais jamais accepté d'être devant la caméra sans être en plateau avec des gens que je connaissais, donc en l'occurrence
Julien. C'est pareil hein, Julien, on était potes avant en fait tous les trois, c'est pas pour rien qu'on nous disait souvent ça émule une ambiance de potes, et en fait c'est quand t'as cette ambiance de potes elle est partie et cette passion c'était plus dur de l'exprimer. Tu te dis juste.
En fait, c'est pour ça qu'on est parti de Game One, c'est de la faute de Thierry, puisqu'on a lâchement abandonné le truc et on s'est dit, bon, on peut plus rester.
Ça a plus été premier, quoi. C'est vrai, à partir, mais après, en fait, c'est ta faute, bâtard.
Voilà.
C'est un trépied, quoi.
Ça n'a pas exactement été le premier à partir, parce que, bon, c'est vrai que Game One, c'était pas que notre trois très loin de là. Il y avait aussi Jia qui a beaucoup travaillé avec nous, il y avait Lionel, etc. Jia, elle nous a quittés avant les autres. Elle a décidé d'essayer sa chance ailleurs, de faire autre chose. Donc, elle était retournée un petit peu dans le papier. Ensuite, elle avait ouvert un blog, je crois, où elle donner des informations sur ce qu'elle était un petit peu devenue.
Mais elle a toujours, hein, je crois.
Elle a toujours. Ouais. Et puis, bon, maintenant, je crois qu'elle vit carrément à l'étranger. Elle est partie vivre à Taïwan ou en Chine, enfin.
Je crois qu'elle est en Chine.
Elle a bougé d'endroit là-bas, ouais. Elle est dure à suivre.
Oui, même nous, on a du mal à avoir des nouvelles. Hein. C'est pas qu'on veut pas, c'est que, bon, elle est agitée, cette enfant, hein, tout de même. Hein.
Puis la Chine, c'est loin.
Et puis la Chine, c'est loin. C'est pas facile d'aller la voir tous les jours non plus. Lionel, quant à lui, c'était celui qui faisait la rubrique du stagiaire.
Attends, deux secondes de silence pour Jia quand même, parce qu'elle avait eu un accident. Moi, c'était un truc qui m'a traumatisé en tant que geek. Quand elle habitait encore à Paris, elle avait une fuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans son appartement qui avait niqué tous ses vieux jeux. Genre, déprime, je saute du sixième étage direct.
C'est vrai qu'elle a eu ça. Du coup, elle a déménagé juste après. Hein. Elle a changé d'appart, elle a été vivre ailleurs.
Donc voilà, deux secondes de silence pour toi, Julia, parce qu'on comprend que c'était très triste.
Quelle étrange musique.
C'est deux secondes de silence selon Alex. Et donc Lionel, pareil, lui, donc, il est parti de Game One. Il avait présenté donc, avec nous le Big Show sur la fin. C'était le gars qui faisait les apartés complètement couillonne et souvent très drôle.
Qui était vraiment stagiaire au début.
C'est
pas une légende urbaine.
Voilà, et qui après s'est mis à travailler avec nous parce qu'on appréciait beaucoup son boulot. Et puis lui, il est parti vers d'autres horizons puisqu'il est parti plus dans la prod télé. Donc lui, il a un peu lâché le jeu vidéo.
Le traître.
Je crois qu'il joue encore un PES, est-ce que c'est vraiment un jeu vidéo? Il y en a marre de jeux de foot de merde, quoi.
Est-ce que Lionel sait vraiment jouer?
Ça va, sur le Calibur, il peut te battre. Hein.
Ah ouais.
Tout le monde peut te battre sur le Calibur.
Ça, c'est faux.
C'est un peu vrai.
Je conteste.
Lionel n'était pas. Mais il fait encore des trucs en liaison avec le jeu vidéo. Je crois qu'il a essayé de pousser des trucs dans son nouveau travail.
Je crois qu'il a participé à la production d'une émission sur. C'était plus sur le hardware.
Il bosse pour Endemol, lui.
Avec Fanny Bouton.
Il a travaillé aussi un petit peu avec Fanny, qu'on avait vu sur le Big Show dans la dernière année. C'était elle qui parlait de high-tech.
Geek, là. Les geekettes.
Ah, la geekette monstrueuse. On ne peut pas dire être. Parce que c'est un geek supérieur de conscience, quand même. Hein,
elle aussi a déménagé, d'ailleurs.
Oui, elle aussi,
elle est partie en Chine.
Ouais, je ne sais plus où.
En Chine.
En Chine aussi.
On va tous
se barrer en Chine, en fait. Hein.
Alex nous dit qu'il les a tous vus à Cannes. Bâtard de Lionel, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Voilà, il n'est jamais revenu.
Eux, ils vont à Cannes. Nous,
c'est pas le mec le plus rapide du monde.
Nous, on reste à Paris, mais en même temps, c'est la plus belle ville du monde, donc on s'en fout.
Tout à fait.
Bah voilà.
Et donc toi, parce que t'es gentil.
Là, oui, parce que toi, c'est à ton tour là.
Ah, c'est à mon tour.
Je suis le leader of the pack et ensuite je réponds pas aux questions. Quoi.
Attends, je suis malin, je me mets dans la peau de l'intervieweur, des formations professionnelles, qu'est-ce que tu veux.
C'est pas mal.
Hein, t'as vu ça un peu malin, le gars. Bah, comme vous, hein, je veux dire, je suis pas vachement original. Bon, je suis resté plus longtemps que vous, puisque donc moi je suis resté 5 ans. Et puis, j'ai poussé un peu plus longtemps que vous. Puis c'est surtout, en fait, je m'étais enfin débarrassé des deux losers qui étaient au-dessus de moi. Donc j'allais enfin pouvoir devenir calife à la place du calife, quoi. Et puis en fait, on m'a pas donné la place de calife.
Le problème, c'est qu'entre-temps, toute la boîte avait compris l'ours qu'il est, en fait.
Je ne suis pas un ours, je t'emmerde. Je suis quelqu'un d'extrêmement agréable.
Bon, excuse-moi, j'ai essayé d'être poli. Le bourrin
voilà.
que tu es.
C'est pas faux. Et donc voilà.
Fan de Jurassic Park.
La chaîne, pareil pour moi.
Quand il entend le mot prédateur, il bande.
C'est élégant comme terme. je te reconnais bien là.
T-Rex, on le reconnaît plus.
Okay.
Raptor emballé, c'est pesé.
Raptor
pour toutes les femmes là.
Attends, tu rock, hein,
dans un en boîte, si tu vois une femme qui vient te voir, c'est Raptor.
Oh bah je me la fais direct. Hein.
Tu parlais justement de.
Oui, bah voilà. La chaîne avait évolué, pas forcément dans un sens qui est inintéressant, mais qui était un sens qui nous intéressait moins. Et puis. Voilà, j'accrochais de moins en moins à la façon dont on parlait de jeux vidéo parce que je trouvais qu'on n'en parlait plus assez. Je trouvais ça vachement bien de se tourner vers la high-tech, de parler un petit peu des nouvelles technologies, etc. Parce que ça, je trouve que ça correspond pas mal à ce qu'est un joueur. Maintenant, moi, j'en aurais pas parlé comme ça, puis j'aurais pas complètement abandonné le côté jeu vidéo. Ils l'ont pas complètement abandonné, mais à mon sens, à moi, trop. Donc au bout d'un moment, j'ai fait, je vois plus trop ce que je fais là, je vais aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, quoi, tout simplement.
Parce que l'air de rien, toi aussi, le côté jeu vidéo, donc t'accrochais pas mal.
Bah évidemment, ouais. Effectivement, moi j'étais le geek de base qui parlait aussi de DVD, on s'en souvient tous, avec Julien, à qui on passe le bonjour, qui me pourrissait systématiquement mes rubriques, pauvre con. Hein. Mais le jeu vidéo, évidemment que ça nous intéressait. Puis ce qui est marrant, c'est dans ce milieu, c'est que tu as la chance de côtoyer les développeurs, parce qu'on a eu tous les trois la chance de faire des making-of.
Ça, c'était génial.
Donc de rentrer un peu plus dans, pas juste jouabilité cool ou pas cool, jeu bien ou pas bien, mais de voir vraiment comment ça se passait, de voir vraiment comment c'était construit. Et ça, c'est juste passionnant, quoi.
Et pour les souvenirs d'une vie, intéressant. Sur le. Parce que, ok, on est parti de Game One, etc., mais il y a quand même des professionnellement, quelle est la chose dont vous êtes le plus fier, vous?
Les making-of, je pense qu'il n'y a pas photo.
Et est-ce qu'un making-of en particulier?
Moi, il y en a deux, mais tout simplement parce que c'est deux making-of où j'ai eu un peu plus de latitude que d'habitude, j'ai eu un peu plus de jours de tournage, etc. Donc il y a eu Playboy The Mansion que personne n'a vu, mais qui est vachement bien.
On se demande tous pourquoi il a kiffé faire le making-of de Playboy.
Ça n'a rien à voir avec la Playmate, j'ai encore le numéro de téléphone, rien à voir. Et puis, Brothers in Arms.
Juste qu'on soit clair là-dessus, avant de continuer.
Oui, elle était quand même vraiment jolie, la demoiselle, je reconnais.
Merci.
Mais on s'est bien marré à faire ce making-of, c'est vrai. Puis il y a eu Brothers in Arms, sur lequel on est parti en Normandie pour voir les sites, etc. On a pu interviewer le colonel John Antal, que les amateurs de jeux vidéo connaîtront, parce qu'il a un tout petit peu au taquet, le coco. Et c'était super marrant à faire. Après, on est retourné les voir au Texas. Et du coup, plus on a d'éléments qu'on a pu tourner, plus on peut en fournir aux spectateurs. Donc du coup, j'étais super fier de cette making-of.
Ouais, mais surtout, il faut dire que Julien a eu le record de jours de tournage pour un sujet.
Et ça, quand même.
Parce que avec Game On, pour Brother Williams, il a eu deux tournages de 3 jours et 4 jours, un truc
énorme.
Comme ça.
Ouais. Et t'étais pas... Ouais, deux tournages, attends. Oui, t'étais parti en Normandie, ensuite t'étais parti aux US.
Ouais. C'était un tournage génialissime. On s'était éclaté. Et puis en plus, les gens avec qui on bossait étaient vraiment, vraiment sympas. Parce qu'à chaque fois qu'on faisait des making-of, en fait, on travaillait en collaboration avec les éditeurs. Ça veut pas dire qu'on n'avait pas notre liberté éditoriale, bien au contraire. Mais par contre, ils nous aidaient à fond. Il nous aidait à fond pour nous dire bon bah voilà, on va vous aider à faire le tournage, on va essayer de vous caler pour que bah par exemple quand je suis parti en Normandie, à ce moment-là, les développeurs de Brothers in Arms étaient en Normandie, donc ils nous ont dit bah, on va vous greffer au voyage et vous aurez la possibilité d'avoir des images que sinon vous auriez pas. Donc tous les making-of qu'on a pu faire, c'est
démarche encore trop rare, c'est ça le pire encore aujourd'hui.
Bon, les making-of qu'on a pu faire, ils sont géniaux parce qu'on est brillant, hein, ça c'est inévitable, je pense. Mais ensuite parce qu'on nous
c'est
a aidé
toujours
aussi.
Auto-kiffé.
Voilà, enfin mes making-of étaient brillants, ceux de Thierry un peu moins parce qu'on comprenait rien de façon. Hein,
Tu comprenais rien.
Bah, je ne comprenais rien, donc j'ai un petit cerveau. Et ceux de Tommy, c'était n'importe quoi. Il y avait des couleurs partout et des sonores pourris. Tommy,
ouais,
quoi.
Voilà, exactement. Ouais, mais bon, c'est vrai que c'était. Moi, c'est pareil. En fait, c'est le même truc. C'est les making-of. De très, très loin. Lesquels, mais en fait, c'est un peu compliqué. Moi, je vais parler de deux types de trucs. Dans les making-of que j'ai fait, il y a le Japon, parce que c'était chez Konami. Puis Konami, et c'est PES, et c'est Castlevania. Et moi, je surkiffe au plus haut point. Tout de Castlevania,
surtout,
la musique, le character design.
On a essayé pendant très très longtemps de faire des making-of au Japon et on a très très peu réussi parce que bah, c'est super méga compliqué. Secret. Quoi. Oui. Ils veulent vraiment pas lâcher le truc et le fait que tu aies pu partir au Japon faire ces deux making-of qui étaient Castlevania et PES.
Ouais, ouais, ça, ouais. Hein. Mais ouais, et puis c'est toute l'histoire en fait parce que les making-of c'est jamais que le tournage. Quoi. C'est les gens que tu vas là-bas, c'est les gens avec lesquels t'es. J'étais justement avec Alex, tu rencontres des Japonais qui sont méta trop cool, qui te trimballent.
Méta trop cool.
À la fin, tu vas te. Non, mais. Et puis ça se passe bien, à la fin, tu vas boire avec eux, tu passes une soirée où c'est juste la détente. Pareil, c'est juste plein de gens que t'aimes à un moment donné et qui se rejoignent. Pareil à Paris, tous les gens qui contribuent. Quoi. C'est génial. Sur tout le reste, il y avait des monteurs qui restaient jusqu'à 3, 4, 5 du mat pendant des jours à bosser le week-end, à essayer de mettre plus de quali pour ce qu'on avait. Et
là,
c'était un truc de malade. C'était un travail d'équipe. Et là, il y avait. Genre, j'ai bossé avec des gens que j'adorais sur les deux. Victo, qui est un monteur de Game One, qui a fait tous les clips, qui était un mec génial, qui a un certain style. Pili, qui pareil avait contribué énormément à tous ces trucs-là. Et puis tout le monde, les ingénieurs sont, tous les gens qui pouvaient contribuer à ça. Et ça, c'est juste une expérience géniale parce que quand tu le vois enfin fini, le truc le plus important, c'est l'impression d'avoir respecté la personne que tu as été voir.
Ah, c'est vrai, c'est super
important. En donnant tout ce que tu as, enfin tout ton cœur, ton émotion quand tu le mets dedans. Alors Toto kiffe tout parce que c'est très dur, quoi, tu vois, tu as du mal à être objectif, tu es à donf. Mais ça, c'est génial. Et donc, il y avait ceux-là au Japon avec PES et trucs.
Castlevania.
Et enfin, Castlevania, il était funky. Celui-là, c'était vraiment rigolo parce qu'il y avait aussi un mec qui, carrément, on a eu la chance, pour vous dire, c'était Jean-Marie qui avait fait ça sur son temps, qui avait rétalonné tout le truc image par image, quoi, tu vois.
Castlevania, il y avait une anecdote rigolote dessus, c'est que la première fois qu'il a été diffusé sur Game One, je sais pas si vous regardez la chaîne à l'époque, il avait été diffusé en version originale et on avait oublié la piste des sous-titres. Donc, il a été diffusé en japonais, le truc.
Voilà.
Il y a des gens qui l'ont regardé et qui ont fait,
c'est un hommage.
Vachement bien, mais on a pas tout.
C'est un hommage. Alors d'ailleurs, un truc pour vous dire à quel point on était à fond sur ce tournage-là, dans tous les plans de toutes les personnes interviewées, j'avais caché une croix comme Castlevania, quoi, qu'il faut trouver. Je pense qu'il n'y a que moi qui le sais, le monteur et le cadreur, et point la ligne, donc j'en profite pour le partager. C'est le moment.
Donc voilà. Je ne sais pas si c'est beau ou si c'est triste.
Et attends, jeu vidéo, easter egg, mec.
Okay, d'accord.
C'est comme ça, c'est tout, quoi. Et ensuite, les autres, c'est les portraits, moi. Parce que les portraits, j'allais passer plusieurs jours avec des mecs qui sont soit des créateurs que j'avais soit rencontrés avant ou que je découvrais comme ça.
Donc, t'avais été voir Jeff Minter, qui était le mec qui vit dans sa campagne.
Lui, je l'aime juste parce qu'il est juste incroyable.
Il est perché comme ça, voilà.
Il vit avec des lamas.
T'avais été voir Norm Lanning, le créateur
de Oddworld, bien évidemment. Lui, c'est l'écolo qui fait du jeu vidéo, qui est rigolo, qui a. Il a un super pouvoir dans la vie, c'est le charisme. C'est chaud. Tu vois, donc après, c'est trop agréable.
C'est son long métrage animé, je crois, aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. Je crois que ça s'appelle, je ne suis plus trop sûr du nom, c'est peut-être Citizen Game, Citizen Game, je pense. Ouais. Donc c'est un truc qui, je pense, arrive. Ça fait
quelques temps qu'il travaille dessus. Ouais.
Je pense qu'il a donné des interviews récemment, mais je n'ai pas eu le temps de regarder là-dessus. Puis le dernier, c'était. Ça, c'est plus pour le fun, quoi, parce qu'il y a des personnages en jeu vidéo, c'est des Tommy Talarico qui. C'est vraiment pour le fun parce qu'il y a des mecs comme ça qui sont. Mais moi, je respecte la folie, quoi. Donc en fait, c'est vraiment une marque
de toute façon,
quand tu
voyais l'intérieur de sa maison, tu voyais, fallait que tu respectes la folie. Hein.
En fait, c'est un peu le fantasme de nous tous qu'on, quand même, même si on assume notre geekerie, lui. Il avait vraiment un raptor, déjà, Julien.
Hein, je sais,
de 3-4 mètres dans son jardin.
Et une salle de bain de Tomb Raider. Le mec
Tomb Raider, une salle Spider-Man, t'es là, genre, sans déconner, photo de lui à côté de Rambo et tout. T'es là, genre, au début, t'as mal, et en fait, au final, tu finis par l'admirer parce que c'est juste trop beau, quoi.
Mais Thierry, toi, donc, ce que t'as pu préférer en making-of ?
En making-of, moi, c'est clairement Splinter Cell.
3
Splinter Cell 3, j'en ai fait plusieurs, oui, tout à fait. Mais en fait, c'était un grand voyage que j'avais fait au Japon.
À Montréal.
À Montréal, on était resté 10 jours avec Damien, qui était cadreur, et qui est toujours cadreur. Et là, c'était vraiment une bonne expérience parce que j'ai découvert la ville que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai failli, à un moment donné, j'ai vraiment envisagé, je me disais, pourquoi pas vivre là-bas, etc., tenter un truc.
Parce qu'il fait moins 40 en hiver.
Ça, c'est ce qui m'a refroidi, justement.
Oh, c'est bon.
Et puis, savoir
que tirer les doigts qui deviennent, c'est tout rouge quand il fait froid. Et tu peux plus jouer aux jeux vidéo.
Moi, je suis pas bien. Moi, j'aime pas trop le froid.
Donc, t'as du mal.
C'est vrai que si on a autant aimé les making-of, c'est pour tout ce que ça offrait. Voilà, la rencontre des équipes, les tournages sur place, et puis aussi le fait qu'on avait ce bol immense de voyager tout le temps et d'être payé pour ça. Je veux dire,
j'ai même parti en Australie, ça c'était sympa aussi. Donc c'est vrai que les voyages
avec Alex, justement, avec Alex, j'étais parti.
Ouais, avec Alex, j'étais parti en Australie. Tout à fait.
Et puis c'est des souvenirs de malade. Il faut les remercier parce qu'il y a Alex, on parle de Damien, mais il y avait aussi Laurent Patureau. Lui, on était parti à Edmonton pour voir BioWare. Il faisait tellement froid qu'il s'était collé les doigts de ses doigts à la bague de la caméra.
J'ai connu ça aussi. Quand on a été faire Playboy, j'ai demandé à la Playmate de se mettre dehors en tenue de bunny. Il faisait moins 30. Je ne sais pas pourquoi nos rapports étaient moins bons après. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et quand il fait des températures comme ça, la caméra perd le point toute seule. Donc on a des plans qui sont flous. Enfin, c'est sympa comme tournage, c'est rock'n'roll. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré.
Et puis en plus, c'était une nouvelle fois la première fois qu'on expérimentait l'image pour parler de jeu. Et donc, justement, tout ce travail de mettre en confiance la personne en face de nous, puisque bon, quand même, en commençant, il a fallu convaincre pas mal de gens. Ça remonte à quelques temps.
Une bataille de tous les jours.
Et donc, à l'époque, le média télé n'était pas si présent que ça. Là, il se développe de plus en plus via le web.
Clair, quoi. Ouais. C'est quand on allait interviewer des gens, c'était la première fois qu'il y avait une caméra. Ils avaient l'habitude du journaliste papier. Mais la caméra, ça les paralysait.
C'était tout un boulot.
Il faut dire qu'au début, on a quand même eu des oreilles qui écoutaient la direction, parce que c'était des gens qui avaient bossé dans le jeu vidéo avant. Et quand on a commencé à pousser les making-of à ce moment-là, au moins là-dessus, c'était cool. Parce que c'était aussi, enfin, ils avaient bossé dans le jeu vidéo et ils trouvaient ça marrant parce qu'eux-mêmes venaient de la prod ou de différents endroits comme ça. Donc, ça nous a pas mal aidé à bien les pousser. Et après, au fil des années,
on a tenté plein de trucs. Arrêté, mais c'est vrai qu'on a même carrément créé un pôle entièrement consacré à.
Pendant un an, on s'est consacré qu'à ça. C'était pour ça que Thierry et moi, notamment, on avait complètement quitté l'antenne. Bah, toi aussi, d'ailleurs, Tommy.
De quoi ?
T'avais quitté l'antenne aussi pendant un petit moment, toi, non ? Ou t'es resté tout le temps, je sais plus.
Je sais plus. Non, si, j'ai quitté, j'avais pas fait quand il y avait Alex Gollum, tout ça, là, sur je sais plus comment ça s'appelait.
J'y étais là. Oui, j'y étais.
Oui, elle était encore là.
Et on avait, nous, décidé de se consacrer au documentaire parce qu'on déjà, on s'éclatait le plus là-dedans, puis on pensait que c'est ce qu'on pouvait apporter de meilleur. Puis voilà.
Faire découvrir, on a toujours plein de questions sur les métiers des jeux vidéo. Il n'y a pas de meilleure façon que de laisser les gens qui le font vous expliquer ce qu'ils font. Et comment, donc c'était une super mission et on aurait voulu continuer, on voudrait qu'il y ait des maisons de DVD, enfin je sais pas quoi, des boîtes de prod qui lancent des séries, qui les sortent en DVD, non mais c'est vrai quoi, il faut diffuser culture du jeu vidéo quoi.
C'est important, hein. L'histoire du jeu vidéo elle est récente, mais qu'elle ait justement une histoire et qu'on aide à la créer, c'est vachement bien quoi.
Et on a eu un coup de main d'une personne qui nous a aidé énormément sur les docs, qui a monté nos lives, c'est aussi Alex Pilote quoi.
Tout simplement un modèle en termes de montage, comment justement raconter le développement, une série de jeux, expliquer un genre complet. Donc, ou raconter l'histoire en fait d'un développeur, tout ça c'est un peu lui en fait qui nous a donné les bases quoi.
Voilà, parce que
je me rappelle
3,
par exemple son 13 minutes sur Castlevania qui m'avait vraiment marqué et je venais juste d'arriver à Game One.
Autant nous trois on partait souvent effectivement, mais on partait essentiellement en Europe et aux États-Unis. Tommy est parti quelques fois au Japon, mais sinon l'essentiel des docs qui venaient du Japon, c'était Alex qui les faisait. Et il faisait en la plupart du temps un sévère boulot quand même, le garçon.
C'est marré comme des malades, le doc Metal Slug, le doc Akihabara.
Vous êtes marré comme des malades parce que quand on allait bouffer le midi, vous pétiez une bouteille de vin. C'est peut-être pour ça.
Et puis c'est le seul mec du monde avec qui je peux parler du pixel défectueux de Castlevania.
Et alors ça, il ment pas là. C'est-à-dire que moi j'ai assisté à ce repas où j'ai pensé vraiment que j'étais rentré dans une dimension différente où t'avais deux mecs qui disaient ouais, tu sais, dans la 253e place, quand tu sautes trois fois à droite, t'as un bug sur un pixel.
On parlait pas de
quoi.
Pièces, déjà on parlait de pourcentage.
Ouais, non, mais c'est n'importe quoi, sans déconner. C'est quoi là j'ai pas compris, si tu veux. Je me suis dit que Tommy était prêt pour bosser No Life alors que ça existait pas encore, tu vois.
Ouais, mais bon.
Et un bon souvenir aussi pour moi, c'était le premier truc que j'ai fait en arrivant à Game One. Ça c'est marrant quand même. Le premier truc, c'est je le regarde encore aujourd'hui, ça me fait marrer.
Bah forcément,
c'est Pikmin Story.
Ouais, c'était Pikmin Story.
Avec Pili, justement.
On avait pris le gameplay de Pikmin et on s'est amusé à raconter une histoire.
Oui, on avait essayé de faire une mini-série, c'est-à-dire de prendre vraiment un jeu vidéo qui existait déjà, mais ensuite de raconter soit l'histoire du jeu vidéo de façon décalée, soit essayer de raconter une histoire différente.
En gros, c'était de faire découvrir l'univers du jeu par un biais narratif différent.
Non, mais juste pas par la critique. Tu sers des images du jeu pour raconter une histoire.
Ouais, je me souviens encore le truc là. Hein. T'avais osé mettre la musique de Conan sur Pikmin. Je t'en veux encore.
Mais ce passage me fait toujours autant rire.
Ça m'étonne pas de toi.
C'est un grand moment.
Pour vous dire, le Pikmin, c'est quand même resté un moment parce que justement, un des monteurs, parce qu'au début, les monteurs nous ont vachement aidé à apprendre tous, quoi. Il y avait Victo et Pili en particulier, qui on avait beaucoup monté à l'époque. Mmh. Et on est assez taquins et on avait terrorisé Pili en accrochant des. Parce qu'on faisait les nuits complètes, on partait à 4h du matin.
On est un peu cons.
Ouais, on est super méta-cons. Rien dire.
Donc, après l'anecdote qui va venir de Tommy, on est très voilà.
On parle. Ah non, je parlais même pas de quand on l'a blessé là. Moi, je parlais juste de quand on a mis les feuilles A4 en mettant Pilissus des Pikmin.
C'est ça. On avait recouvert en fait le
plafond, tous les
le
murs.
Le plafond, en fait, toute la petite salle de montage.
Peut-être 60 papiers.
De post-it débiles.
Que on, c'est pas moi, hein, c'est vous deux. Hein. Je me désolidarise complètement de cette expérience.
Et sachant puis, que le monsieur était un rien claustro, donc je pense qu'il a paniqué pendant quelques secondes.
Mais non, souviens-toi ce qu'il a fait. Il est resté dans son banc de montage avec tous les papiers toute la journée. Et c'est quand Michael est passé.
Michael, qui était le patron à l'époque.
Et il a regardé comme ça avec tous ses papiers du type t'as un mec en train de bosser, au-dessus t'as Pilissus des Pikmin, et à côté t'as Pili aime les bonbons.
Ok. C'était en effet parfaitement ridicule. Donc en gros, voilà, avec des moines, on s'est tous éclatés. Je pense qu'on peut le dire, on s'est bien marré un bon pendant un moment. Ensuite, donc, on est parti vers d'autres univers, mais on a absolument pas, aucun de nous trois n'a décroché le jeu vidéo. On continue à jouer, on continue à avoir des modèles, on continue à avoir des idoles.
Ouais. Donc là, tu vas faire une transition vers la prochaine partie.
T'as vu
avant,
ça,
je voulais parler quand même de l'affection de Thierry pour les Mexicains.
Ça, c'est une autre histoire.
Oui, c'est vrai.
Maintenant, on est obligé de
J'ai vu le petit panneau d'Alex tout à l'heure, genre qu'il levait.
Ça, c'était le 3 2003.
Ouais, c'est une belle histoire.
C'est quand donc a été annoncée la guerre en Irak. Je le dis parce que ça a son importance. On a donc envoyé comme tous les ans nos journalistes à l'E3. Donc il y avait
oui, enfin comme tous les ans, c'était la première fois.
C'était la première fois qu'on le faisait en mode télé.
Exactement.
Et en gros, quand on part en mode
c'est la première année, je crois, ouais, où j'étais. On est arrivé
en mode presse papier. Ce qu'on fait, c'est qu'on part avec un visa, sans visa, puisqu'on y va comme des touristes avec notre papier.
Il faut savoir qu'en tant que journaliste, il faut un visa I, donc un visa spécial pour pouvoir rentrer sur le territoire américain.
Voilà, parce qu'on y va pour
jusqu'à maintenant, en presse-papier, on pouvait facilement dire qu'on était là en tant que touriste, puisqu'on n'avait rien avec nous. On n'avait pas de grosses caméras, de trucs qui identifiaient réellement notre profession. Et puis, de toute manière, c'était pas si important que ça. Si on tombait sur un douanier un peu con qui demandait vraiment le visa-I, on payait une amende et c'était réglé, on rentrait quand même sur le territoire.
Voilà, sauf
et là, avec les tensions politiques qui existaient à ce moment-là entre la France et les États-Unis, les douanes faisaient du French bashing. C'est-à-dire qu'en gros, ils sélectionnaient.
Sur les Français.
Voilà, les Français et les Allemands, puisqu'il y avait. Enfin, bon, on racontera après. Mais en gros, en arrivant donc à l'aéroport sans visa-I, malheureusement, l'un des deux cadreurs, donc Laurent et Alex, m'accompagnaient ainsi que Tommy. Et Laurent était retenu aux douanes. Et à ce moment-là, Alex, qui parle mieux anglais, s'est précipité pour voir ce qui se passait. Ils sont tous les deux partis, genre derrière. Ensuite, un dernier douanier.
Derrière, je tiens à insister sur le mot derrière, il prendra de l'importance plus tard.
Avec le Mexicain.
Et ensuite, un autre douanier est venu, s'est pointé vers moi et Tommy, qui étions assis sur les valises en train d'attendre.
Tommy et moi.
Ça, c'est le côté relou de Julien, désolé. Hein.
Ouais. Ouais, il faut lui pardonner. Mmh. Et à ce moment-là, donc, le douanier a demandé qui est le troisième français. Parce qu'il faut savoir que cet enfoiré, Tommy, a la double nationalité, donc il n'a pas été inquiété comme nous. Et donc, j'étais embarqué également derrière. Et on a été retenu pendant 26 heures, donc en détention à l'aéroport, et avant d'être renvoyé en France. Et
Il faut décrire une image quand même, parce que moi, ça a été la panique. Ils avaient pris toutes les caméras et tout.
Il faut savoir quand même qu'un salon comme l'E3, c'est 3 semaines de préparation, c'est une prise de rendez-vous donc avec tous les éditeurs, c'est assez compliqué. On organise tout avant.
D'autant qu'on
partait, justement à deux journalistes avec deux cadreurs.
C'est déjà
chaud. Couvrir un événement de cette taille-là, c'est très très difficile avec seulement deux équipes.
Et donc, moi, je me retrouve tout seul. Les caméras étaient avec eux. Je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. Je demandais aux douaniers. La dernière image que j'ai d'eux, elle est surpuissante. Hein. C'est eux enfermés derrière une truc en verre avec des gueules pas possibles. Un douanier qui regarde Jerry Springer en train de bouffer des pop-corns. Eux, sans leur lacets. Les sacs de caméras sur le côté. Et bon, là, quand le mec m'a dit que de toute façon, je ne pouvais pas rester, si je voulais pas finir, enfin, que si je restais, j'allais finir avec
ce
eux.
Ce bâtard nous a abandonnés.
Et alors après, ça a été, nous, de notre côté, ça a été, hop, on appelle le consulat, le machin, Reporters sans frontières. On a tout essayé à l'époque pour essayer de courber le truc.
Ouais. Et on n'était pas les seuls, faut le dire aussi. C'était pas juste.
Toute la boîte a aidé.
C'est pas Game One qui a morflé. Il y a eu un journaliste de Télé 7 jours aussi à l'époque.
Il y a eu trois journalistes, Télé 7 jours, Télé Poche, Télé Hop.
J'étais venu avec Bertrand Lamar.
il y avait dans cette fameuse salle d'attente détention à l'aéroport, donc un jeune français, genre qui devait avoir une vingtaine d'années.
Et c'est pas d'éviter le mexicain, on sait très bien que t'as passé ta nuit avec un mexicain.
On va raconter. Ensuite, oui, j'en arriverai au mexicain, ne vous inquiétez pas. Et donc, il y avait un jeune français qui était là uniquement parce que, visiblement, en passant en douane, le douanier avait cherché comme un fou sur sa petite machine, pour finalement crier « I got him, je l'ai eu ». Et en fait, oui, il avait dépassé, il y a de ça, genre plusieurs années, d'une journée sur un visa de séjour. Et du coup, à cause de ça, il était renvoyé. Le mec avait payé.
Alors qu'il était déjà revenu entre les deux.
Et oui, il était revenu plein de fois. Donc, c'était vraiment pour le piéger. Et le mec était venu sur son argent pour voir sa copine. Enfin c'était une catastrophe. Voilà, il y avait aussi un avocat anglais qui était là parce que son nom de famille, c'était Hussein.
Voilà, football.
Donc lui, il était là quand on est arrivé, il était encore là quand on est reparti.
Tout ça parce qu'il avait.
Et il y avait des Allemands, donc le deuxième pays qui était un peu également sinon, contre la présence de troupes irakiennes.
Tomira, surtout, on aime les États-Unis. Hein. On n'était pas fans à cette époque-là.
Ah, non, non, non.
Mais c'est eux qui ont commencé.
C'est la schizophrénie d'être biculturel. C'est ça. Des fois, t'es plus sain que l'autre. Dans ces moments-là.
Ouais, dans ces moments-là, t'as sorti ton passeport ricain. Hein. Ça, ça se souvient.
Mais c'est vrai qu'au début, pendant les 26 heures, une nouvelle fois, pendant on va dire les 10 premières heures, on est là, fête qui nous laisse rentrer, fête qui nous laisse rentrer. Et pendant les 16 dernières, c'est fête qui nous laisse partir, je veux rentrer en France. Donc voilà. Et sur les. Donc on a été quand même, genre le truc hallucinant.
Le Mexicain.
On y arrive. Donc il faut savoir qu'il n'y avait pas assez de place, je crois, pour que tout le monde dorme à l'aéroport. Et donc, Laurent et Alex, eux, sont restés à l'aéroport pour dormir. Et moi, je suis parti en tôle. Donc, à l'extérieur de l'aéroport, donc à Los Angeles, pour passer la nuit. Et donc, on a été genre, mais il y avait tout un tas de gens.
Pour que l'image marche, il faut quand même expliquer que tu es quand même gueulé comme une crevette. Aussi.
Non, je suis hyper balèze, comme Bruce Lee.
Ils l'ont vu à la télé. Hein.
Et donc, en fait, on a été enchaînés, genre à deux. Et deux par deux, et on a pris un camion genre pour aller en tôle. Et
donc,
moi j'étais enchaîné un gigantesque mexicain.
Comme dans Desperado.
Mais vraiment, tu vois, je faisais pas le fier.
T'es parti vers le soleil couchant avec un mexicain sorti de GTA San Andreas, et t'es revenu en France, tu n'as plus jamais été le même. Que s'est-il passé, Thierry?
C'est clair.
L'histoire d'amour est-elle née à ce moment-là?
Quand il dort à la maison, il crie Chavez dans la nuit, je comprends pas.
Pourquoi il dort chez toi?
Non, mais c'est vrai que quand j'y repense, c'était assez hallucinant, quoi. Parce que les mecs déconnaient absolument pas. Donc, évidemment, on était là pour une erreur administrative. Donc, tu poses la question quand tu te fais enchaîner en disant, mais genre, vous déconnez, quoi, you're joking. Et à ce moment-là, tu vois, les mecs te regardent, genre, mais sans aucun sourire, très sérieux.
On plaisante pas ici. Hein,
t'as eu de la chance. Pensée complaisante. Genre, t'es là, genre, ok, je crois que je vais fermer ma gueule, sinon ça va être encore pire.
T'as eu de la chance, ils t'ont pas fait, genre, freeze, motherfucker, ou un truc comme ça direct.
Enfin bref, c'était une cata. Quoi.
Bon, et moi tout à l'heure, j'avais préparé une belle transition, sauf que tu me l'as ruinée, donc maintenant tu fais la transition, tu te démerdes. Hein.
Ah, vas-y, t'as dit, transitionne.
On va parler de ce qu'on fait aujourd'hui.
Voilà, transition. Moi, j'avais préparé un beau truc, c'était chouette et tout.
Voilà, toi, t'avais une jolie phrase.
Ouais, mais j'ai oublié.
C'est pas mon style. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi?
Pas grand-chose, en fait. Depuis que je suis parti de Game One, je joue beaucoup aux jeux vidéo, je rattrape le temps perdu. Parce
toi,
que
t'es parti il y a peu de temps. Il y a combien de temps?
Il y a un an et des bananes à peu près.
Déjà, quoi.
Le temps passe vite. Ouais. Et donc d'abord, effectivement, j'ai rattrapé le temps perdu en jouant beaucoup plus. Parce que c'est vrai que quand on bosse dans le jeu vidéo, c'est là qu'on y joue le moins. C'est bizarrement, hein, on n'a plus le temps. On essaye plein de jeux, mais on n'a pas le temps d'en finir beaucoup. Sauf Tommy. Parce que Tommy, il n'a pas de
vie. Il bosse pas.
Voilà, et Tommy, de toute façon, quand il joue pas aux jeux vidéo pendant plus de 2 heures, il se sent pas bien, hein, même quand il travaille, hein, je vous rassure.
Non, mais ça a été très dur de quitter Mario Kart, ça m'a mis des mois.
Ouais, Wipeout aussi.
Animal Crossing, ça a été ma perte de ces 2 dernières années, ça a été ma perte totale et absolue de ma vie. Mais enfin bon, parlons d'autre chose.
Et donc voilà, donc moi je suis. D'abord, j'ai travaillé pour France 3 pendant un petit moment sur une émission de jeux vidéo pour les enfants. J'ai juste préparé les débuts, donc j'ai fait un petit peu de la rédaction en chef pour dire voilà, l'émission elle va grosso modo ressembler à ça, en accord avec les producteurs avec lesquels je travaillais. Et puis au bout d'un petit mois, on s'est dit bon, visiblement, Julien, t'es un gros bourrin, hein, tu sais pas tellement parler aux enfants. Donc je suis passé à autre chose. Et l'émission elle existe encore aujourd'hui, c'est plus du tout moi qui l'a fait, moi j'ai juste fait la première. Et ensuite, je suis passé dans complètement autre chose parce que le jeu vidéo à la télé. Ça m'intéressait vachement, mais je ne retrouvais pas ce qu'on avait eu la chance de trouver à Game One. Ça n'existe plus aujourd'hui, les making-of, ça n'existe plus. Les gens qui parlent de jeux vidéo en parlant vraiment de jeux vidéo, ça n'existe plus.
Je te contredis là-dessus.
Sauf sur No Life, évidemment, mais No Life est une chaîne un peu particulière. pour le moins. Et
ça, je suis tout à fait d'accord.
Voilà, c'est une chaîne très particulière. Ouais. Je pense que la façon dont moi je parle de jeux vidéo ne correspond pas à la façon dont No Life parle de jeux vidéo. C'est pas fondamentalement la même.
Peut-être pas tout à fait, mais voilà. Bon.
Ça n'entache rien à la qualité de la chaîne. On est super content qu'elle existe. Hein. Moi, je la regarde pas tout le temps parce qu'il y a des programmes que je comprends pas. Où je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, je suis normal.
En plus, t'es pas très J-pop. Hein.
Je vais quand même dire, la défense de No Life, il a jamais rien compris à beaucoup de trucs un peu compliqués non plus. Quoi.
Je t'emmerde encore une fois. C'est la cinquième ce soir. Et donc, je suis passé sur une émission pour W9 qui s'appelle Le Monde des Records, dans lesquels on parle des records du Guinness Book. J'écris des conneries plus grosses que moi, et puis voilà quoi.
Puis tu fais de la voix off aussi.
Et je fais aussi de la voix off. J'ai fait quelques voix off pour Ciné-Cinéma sur une émission de super méga bourrin. Donc forcément, j'étais un peu dans mon élément. Et puis voilà. Puis c'est vrai que c'est la dernière année sur Playit, sur Game One, j'ai travaillé quasiment exclusivement sur Playit. Donc en gros, mon métier à ce moment-là, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis parti, parce que je trouve que j'étais un peu sous-employé, mais mon métier consistait globalement à écrire des blagues toutes les semaines pour qu'une émission de top soit plutôt sympa à regarder. Et mine de rien, cette émission m'a quand même un peu forgé dans mon écriture de blagues, ce qui fait qu'avant je faisais des blagues pourries mais j'osais pas les écrire. Maintenant j'ai plus aucune inhibition, je fais des blagues super pourries et tout le monde me dit « Hey, t'es pas drôle !»
Je vais préciser que nous on les a toujours supportés, hein. T'as toujours osé.
Oui, d'accord. Et donc, on a vu, toi, donc maintenant, tu travailles à...
Ah, mais attends, toi, t'as pas tout dit, espèce de petit salaud.
Quoi, j'ai oublié un truc ?
Bon, il faut savoir qui l'écrit aussi.
Ah oui, c'est vrai, ça n'aime pas en parler. Ah, c'est bien, je suis fier de toi.
Évidemment, j'en parle pas, ça ne sert à rien, je suis pas tout le monde, donc ça sert à rien.
Non, mais bon, il écrit également. Donc, on verra. Donc, guettez dans les librairies, le prochain bouquin.
Écrivez aux éditeurs pour leur dire, quoi. Allez, c'est Julien, le mec de Game One.
C'est vrai que c'est
on vous promet beaucoup de dinosaures.
J'écris des bouquins excessivement subtils, avec des belles histoires d'amour, et des gens qui crèvent à toutes les pages comme des merdes.
Il y a des raptors ?
Il n'y a pas de raptors. J'ai pas encore fait un truc sur les dinosaures.
Sans déconner. C'est pour ça.
Ça, c'est ton Graal.
Non, c'est pas mon Graal. C'est l'un de mes Graals, parce que j'ai plusieurs Graals, en fait.
Ton rêve absolu, c'est quand même d'écrire Jurassic Park 5.
Ouais, mais ça, en fait, dans ma tête, il est déjà prêt. Je viens de me geekifier à mort, mais il est déjà prêt dans ma tête.
Il sort quand ?
Je sais pas encore, faudrait qu'il sorte le 4, cette espèce de feignant Hollywood, là, avec un vrai scénario plutôt qu'un truc comme la merde du 3. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, j'écris effectivement aussi des livres, mais ça fait 15 ans que ça me poursuit, ça fait 15 ans que j'en ai déjà écrit. Je suis sur le quatrième, qui n'est pas plus publié que les trois premiers, de toute façon, parce qu'en plus il n'est pas fini, celui-là, au moins il y a une bonne raison. Et puis je continue à les envoyer, et puis l'édition en France fait qu'ils continuent à pas les éditer, parce que j'écris pas sur l'histoire d'une ancienne prostituée qui se masturbe en pensant à elle-même. Donc fondamentalement, dans l'édition française, ça n'intéresse personne quand tu fais autre chose. Hein. Ils n'aiment pas les romans de genre en France. Ils font Bernard Werber, ils font Granger, et puis c'est pratiquement tout. Quoi.
C'est comme avec le cinéma de genre, c'est pas facile.
C'est comme avec le cinéma de genre, ça fonctionne à peu près pareil. Voilà. Bon, un film, ça se monte, c'est encore plus difficile.
Parce que, la gueule alors que ce mec est excellent.
Je t'avoue que je connais pas très bien, j'ai pas souvent lu ce qu'il faisait, mais c'est vrai que les auteurs de genre en France, comme dans le cinéma de genre, enfin dans tout ce qui est genre en France, on considère que c'est de la sous-culture, ce qui est à mon sens d'une bêtise caractérisée, mais comme c'est pas permis, parce que le truc qui te permet de t'évader, c'est quand même ça, quoi. Si on te propose un jeu vidéo où tu vis ta vie de tous les jours, ça peut être intéressant si c'est Animal Crossing à la limite, quoi. C'est parce qu'il y a quand même un univers qui est différent. Mais globalement, il faut quand même que tu allumes ta console à Noël pour avoir un cadeau. C'est comme Space, comme jeu. Hein. Mais si on te propose.
C'est génial, mec.
Si on te fait un jeu vidéo qui dure 15 heures où tu remplis ta feuille d'impôt, tu vas t'emmerder. Hein, faut être clair. Si on te fait un film où tu vois que la deux fois est en panne, tu vas te faire chier aussi, quoi. La littérature, pour moi, c'est pareil. On doit t'emmener ailleurs. Je trouve que c'est quelque chose qu'on fait trop peu en France, on n'ose pas. Et pourtant, sur les plages, les gens, ils lisent quoi ? Ils lisent Harry Potter ou ils lisent un traité de philosophie ? Les gens ont envie de s'évader, de lire Harry Potter. Traité de philosophie, c'est assez rare. Hein. Sauf Alexis Deville, qui était un gars qui bossait avec nous et qui lit beaucoup, beaucoup, beaucoup de philo.
Bonjour Alexis.
Ouais, bonjour Alexis, si tu nous entends, tu es fou. Mais on t'aime bien quand même.
On sait qui a tué le rappelement.
Lui sait qui a tué le rappelement. Voilà. On ne va pas vous le griller.
Et toi, Tommy, tu fais quoi ?
Moi, je suis parti de Game One pour aller travailler à Ubisoft. En fait, au siège d'Ubisoft, je bosse dans un département qui s'appelle... comme il faisait Julien Théouk quand il faisait de l'anglais là. Non, il avait un accent de merde, c'est vrai. Mm-hmm. Bonjour à lui d'ailleurs, qui nous a bien aidé aussi
à survivre en mode plateau
parce que c'était c'est dur.
Début,
il n'aurait pas été là, c'était pas la peine quoi. Puis une pêche incroyable et puis pour parce que lui son kiff c'est de faire de la télé quand même avant tout.
Et d'avoir
c'est
une coupe de cheveux de merde.
Voilà.
Ça faut quand même le signaler.
Et bien gominé, mais qui a une passion absolument qui était hyper respectueux du jeu vidéo. Ce n'est pas toujours évident, donc ça c'était un fucking plaisir. Donc merci mec. Donc
voilà. Tu as le mérite de toujours essayer à PES.
Ouais, ouais.
De toujours essayer.
Ah, d'accord,
parce qu'il perdait tout le temps.
Non, mais c'est un truc de malade, il fallait le voir. Il est vraiment intense quand il joue un match de PES. Quoi. Il y croit, mais jusqu'à la dernière minute. Et quand il en met un, c'est douloureux de l'entendre
et
chanter. Quoi.
Et quand il joue à Street Fighter, il prend que Chun-Li. Sinon, c'est une burne, il arrive à rien. Avec Chun-Li, il se démerde. Donc, il prend que Chun-Li. Il sait pas jouer, ce mec-là. C'est rien. C'est pas grave, on l'aime bien quand même. Hein.
Donc, en fait, moi, je suis parti du côté. De l'autre éditeur, côté. Production, puis c'est un truc que j'avais fait avant, quand j'habitais aux États-Unis aussi, puis dans l'anime aussi, puis c'est un truc qui m'a toujours passionné au plus haut point. Puis là, c'est l'occasion de passer dans un pôle dont le rôle, c'est d'aider et de contribuer à essayer de faire les meilleurs jeux du monde. Et on le fait tous. Voilà, modestement, attends, c'est un but, quoi. T'as envie de, quand tu fais des jeux vidéo, que tu collabores au truc. Moi, c'est ça, quoi. Avant, j'en parlais à la télé à Game One, et après, ta passion, c'est une autre facette du cristal, là, l'autre truc, là. C'est, au lieu d'en parler, t'essayes de les faire et t'essayes de donner de l'amour. Et puis, je pense que tous les gens que je connais qui sont là-bas, c'est ça. Donc, on essaye de se dire, travailler sur les jeux vidéo, de travailler avec les équipes, de les aider à trouver des concepts, des machins, de faire démarrer des trucs. Il y a des milliards de trucs. C'est con parce que je peux pas trop en parler. Je suis désolé
parce que
la culture du secret, mais je suis comme un poisson dans l'eau et puis c'est méta cool.
Donne-nous un scoop sur Assassin's Creed 2, qu'on en parle un petit peu, parce qu'on veut tous savoir. Alors, est-ce que cette fois-ci il y aura un vrai scénario?
Moi, je sais pas si Assassin's Creed 2 il sort. Je crois que tu t'es trompé de personne. Là.
Mais on le sait tous.
Brûle-le un petit peu avec ta clope.
Je peux le brûler un peu avec ma clope,
ça. Il y a parlé.
Vas-y, parle.
Moi, je sais rien, moi.
Bon, on aura essayé.
En fait, j'étais embauché là-bas et je fais des claquettes. Je passe d'un bureau à l'autre et je divertis les créateurs.
Mais alors,
mon vrai travail.
C'est ça, par contre, c'est tout à fait possible, puisque c'était quand même un mec qui passait des heures à préparer des conneries pendant qu'on bossait. C'était genre, on revenait, on avait le bureau repeint en rose, on revenait, il avait changé le fond d'écran. Ça, c'était Tommy, au jour le jour. Très difficile de travailler avec ces garçons.
C'est insupportable.
Mais pour lui demander à mes collègues d'Ubisoft, il y en a qui partageraient une expérience commune avec vous, je pense.
Oui. Mais on va essayer de les rencontrer. Hein. Tu fais tout de ça, Thierry, tu organises une petite interview avec eux, tu te dis, bon alors, Tommy, François, est-ce que c'est possible de le supporter pendant plus de 2 jours?
Bisous, j'attends le moment.
J'ai déjà chatertonné un mec à son fauteuil. Bonjour Mathéo.
Parce que maintenant qu'il est passé de l'autre côté. Parce que,
et le pire, c'est que j'ai rencontré Mathéo et qui m'a confirmé effectivement qu'il avait été chatertonné. Donc le mec, quand même, il ose le dire. Ouais, il m'a chatertonné.
J'ai fait ma plus belle trahison de ma vie. J'ai eu un instant, tu sais, c'est ces instants comme dans les jeux vidéo où tout se cristallise. T'as quelqu'un qui est dans une situation de danger absolu, qui te connaît pas encore. Et là, tu sais que tu vas teinter à jamais ta relation avec lui. Et t'as 5 mecs qui viennent pour le pécho, pour le foutre dans la neige, par moins 36, et le foutre à poil. Il a l'option, il est devant la porte du restaurant, les autres sont encore à 20 mètres. Là, t'es à côté de lui en train de fumer une clope. Là, il dit, putain, je rentre dans le restaurant. Et là, ça s'est arrêté. Et tu fais le choix. Soit tu le laisses partir et t'es son ami, soit tu le retiens et tu l'offres.
Alors, te connaissant, bizarrement, je suis
retenu. Et comme t'es une vieille tepue intergalactique, juste au moment où il rentre, et quand il retournait, le visage, mais franchement, c'est un de mes coups de pute favoris de ma vie, quoi. Le désespoir le plus absolu. Et les mecs sont arrivés. Bonjour à Maxime qui a largement contribué à ça parce qu'il a fait monter. Attendez, on est tous des fous dans les jeux vidéo. Il y a un truc. Alors, je sais pas si c'est Maxime qui a inventé la légende ou pas. On dit à Montréal, on dit un bouillon quand tu fous quelqu'un dans la neige et que tu le fous à poil. Et donc ça avait déjà été fait avec Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Et il a fait monter une sorte de deuxième légende urbaine sur le bouillon inversé qui est un peu plus hardcore en brance canadien bûcheron. C'est je te mets de la neige dans le cul avec une cuillère. Et je te fous à poil, tu vois. Donc, on est au restaurant juste avant ça. Et le mec qui est Maxime, bonjour Maxime, qui lui était le directeur créatif de Rainbow Six 2, qui aujourd'hui bosse encore sur d'autres jeux et tout. Un mec super talentueux, incroyable et tout. Et surtout, je le respecte pour ça. Il s'est mis une mèche avec le serveur. Et Jean-Marc est assis à table. Il y a un grand plateau qui arrive avec une serviette. Le mec soulève la serviette et t'as 15 tailles de cuillères différentes. Moi, j'aime bien ce type de harcèlement psychologique. Donc, à partir de là, il était évident que j'étais obligé de lui offrir sa proie et de collaborer.
Donc, on aura demandé à Tommy de nous filer un scoop sur un jeu vidéo qui va sortir dans 33 ans. À la place, il nous parle de cuillère dans le cul. Voilà. On aura essayé. Hein.
Voilà. Donc,
ça promet des mecs qui ont des plays intéressantes.
Et voilà, tout est dans la qualité de la manipulation.
Mais sinon, tu travailles hein, quand même, hein, on le précise. Pour le quand
plaisir
même.
D'interaction.
Des fois que ton patron tombe sur l'émission, tu bosses aussi parfois. Tu ne fais pas que mettre des cuillères dans des parties de l'anatomie qu'on ne renommera pas.
J'ai pas dit que je faisais, j'ai trahi. Mais en effet. Non. Sinon, le taf, c'est passionnant parce que c'est passer ton temps à réfléchir à comment sont faits les jeux vidéo, comment essayer de, de contribuer à améliorer certaines choses, à les rendre plus accessibles. C'est un truc sur lequel on focalise. C'est génial. T'apprends de toutes les équipes avec lesquelles tu bosses, parce que t'as de la chance de bosser avec plein d'équipes, avec gens plein. Enfin voilà, c'est un peu ce qu'on retrouvait dans les making-of. On concentrait dans une culture de boîte rigolote, et puis où les gens, bah, ils kiffent parler de jeux vidéo, quoi. Donc, tu te retournes, bonjour, geek numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
T'es pas dépaysé, quoi.
Il y en a 4000 et quelques, donc c'est cool.
Ah, 4000 geeks, on était moins nombreux, Game One.
Je crois que c'est plus, je suis jamais, je suis un peu à la ramasse là-dedans. Quoi. Et puis tu rencontres des geeks de toutes les nationalités, quoi. Tu t'aperçois qu'on n'a pas toujours les mêmes goûts. Ça, c'est fun aussi.
Bah, puisque tu parles de geeks, ça nous permet d'enchaîner sur Thierry.
Bah oui, hein, mec, hein, t'es le pire d'entre nous en geekerie, ah, enfin, avec Tommy.
Bon, Tommy, largement pire que moi, mais bon.
Parce que donc on l'a évoqué tout à l'heure, on va revenir un peu
oui,
sur le travail.
Oui, parce que là, hein, maintenant, Life, oui, je me suis, j'ai décidé de m'investir complètement à No Life.
D'accord.
Donc je m'occupe du jeu vidéo là-bas avec avec Kevin, Pierre-Alexandre, Jonathan, Julien Pirou, enfin toute une équipe.
Alex Pilote,
bien évidemment, puisque bon, pour ceux qui ne connaissent pas, No Life a été créé, c'est une chaîne qui a été créée il y a un an maintenant, une chaîne télé.
Et est-ce qu'elle est toujours disponible que sur Free ou est-ce
non,
qu'on peut
tu peux, c'est sur Free, sur Neuf, sur Alice, et ça va débarquer très bientôt sur le câble, etc. etc.
Chaîne,
il y a pas mal de projets.
La chaîne vit et vit bien.
Oui, vit bien. Donc, d'autant plus que tout récemment, là, on a annoncé un partenariat financier avec Ankama, donc les développeurs de Dofus, qui ont bah, clairement sauvé la boîte, parce que là, c'était vraiment un beau projet, mais il n'y avait pas de sous qui rentraient, il n'y avait que des sous qui sortaient. Et donc là, maintenant, on va pouvoir vraiment passer, tout le monde va pouvoir passer à un niveau supérieur. Et donc, cette chaîne... Eh ben, c'est un rêve, quoi, parce que, en effet, j'ai l'occasion de bosser avec Alex et Seb, qui sont les deux fondateurs de la boîte. Donc Alex Pilote, qui faisait les docs japonais sur Game
et
One.
Mister France et 5, les Bitoman aussi,
voilà,
pour ceux qui
Mémoire Vive. Voilà. Et donc, ce qui me permet de, une nouvelle fois, parler de jeux vidéo de façon encore plus libre et de développer à nouveau plein de making-of, de documentaires, de projets d'émissions et vraiment de faire ce que j'ai toujours voulu faire, quoi, des émissions traitant du jeu vidéo de façon complètement différente. Et également, oui, et également faire s'exprimer devant une caméra des tas de développeurs, des personnalités, des gens de l'ombre, etc. Et découvrir également à eux leur passion et leurs références, ce qu'ils cherchent à faire dans ce média qui est absolument fascinant et fabuleux et qui, avec les consoles next-gen, prend un nouvel envol, qui, avec la Wii, prend une nouvelle direction. C'est vraiment un rêve, quoi.
C'est une question
de bosser
que
dans ce milieu.
Vous, aujourd'hui, maintenant que les trois consoles elles sont sorties depuis un petit moment, la Wii, est-ce que vous trouvez que c'est cool ou pas, quoi? Parce que moi,
j'adore.
T'adores, toi?
Je suis sûr qu'il faut plus au point.
T'es sûr qu'il faut aussi?
Nous, déjà, il faut savoir qu'on est champion du monde intergalactique mondial de Wii Golf. Voilà, merci.
Okay. Donc, voilà. Tommy a le score parce qu'il a de la choune comme pas possible, je tiens à le préciser.
C'est vrai.
Mais non, la Wii, ça marche du tonnerre, quoi. Ça marche du tonnerre. Avec, en effet, une nouvelle fois, ce sont surtout les jeux Nintendo qui tirent un peu leur épingle du jeu. Donc, avec un Mario Galaxy, avec un Metroid Prime, avec là Super Smash qui vient de sortir.
Moi, je surkiffe tous ces jeux-là. Mario Galaxy, j'en pouvais plus. C'est tous les jeux que tu cites, quoi. Même les Super Paper Mario. Il y a plein de trucs, en fait, qui m'ont plu. Enfin, je sais pas, j'aime bien aussi le côté...
Pour moi, c'est pas une console casual, comme
j'ai joué avec
gens
plein de
gens. Voilà.
Non, c'est une console où les gens jouent ensemble, c'est tout. Tu peux vrai, jouer avec toi ou
clairement,
tu peux jouer
avec des amis. Là, oui, j'ai un peu de mal à jouer tout seul. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que c'est une console où tu joues genre quand même avec des potes, quoi, pour t'éclater, faire du family ski ou autre. C'est bien sympa, quoi, à plusieurs.
Metroid et Zelda, j'ai pas eu de problème.
Oui, mis à part certains titres, ouais. Et Mario Kart, par exemple.
Excite Truck, j'ai surkiffé.
C'est génial. Ce truc est génial.
C'est incroyable.
Pourquoi,
jouez-y.
T'as des critiques par rapport à la Wii? Vas-y, exprime-toi.
Non, j'ai pas de critique particulière, mais effectivement, je trouve que c'est... Voilà, il a essayé de me taper, il s'est ruiné sur la table. Non, je trouve justement que, un peu comme toi, que j'y joue énormément avec des potes et on s'éclate comme c'est pas permis, mais tout seul, mis à part Excite Rock auquel j'ai joué des heures, j'arrive pas à trouver le jeu qui me pousse à me tenir les bras en équilibre pendant 15 jours, quoi. C'est assez vite,
pas comme ça, faut arrêter avec ça. C'est comme Zelda, c'est pas du tout comme ça. Zelda, oui, il y a l'arc et tout, mais il se démerde dans
les genoux,
tu les poses sur les genoux.
Pareil
quand tu joues à Mario Galaxy. Tu peux faire comme ça. Moi, quand je joue à Metroid Prime, j'ai une main sur le genou. T'as pas tes bras en haut, quoi. Tu vois, t'es éclaté comme une merde dans le canapé en train de jouer à Metroid, c'est tout.
Dur, calme-toi.
Non!
Oh, à la vache, ça y est. J'avais une oreille gauche, ça y est, j'en ai plus.
Il a pété tout le matos.
Bon, il fallait le faire, quoi. Je le défends.
Il fallait que tu gueules au moins une fois, c'est bien, c'est fait. Non, c'est pas du tout une critique par rapport à la console. C'est vrai que même moi, Mario Kart, je l'attendais énormément. J'étais un tout petit peu déçu. Parce que je trouvais qu'il y avait trop de pistes qu'on avait déjà vues ailleurs. Ils auraient peut-être pu toutes les mettre, c'est une super idée, mais ils auraient pu en rajouter peut-être un peu plus de nouvelles.
Bah, ils n'ont pas toutes mises. C'est la même formule que sur DS, 16 anciens circuits, 16 nouveaux circuits. C'est une formule qu'ils ont trouvée. Oui, moi aussi, je trouve ça dommage.
Oui, la sélection des circuits était moins optimale quand même que la version DS.
Et puis le gameplay, pour le coup...
Il a changé, surtout les circuits rétro.
Le gameplay a vachement changé. Je trouve que les apports, globalement, sont pas énormes en termes de gameplay. Ça reste super agréable à jouer, mais j'attendais plus. Honnêtement, j'attendais plus.
Moi, je suis pas tombé dedans comme je suis tombé dans la version DS. J'ai adoré, mais...
Fondamentalement, j'ai essayé le volant...
Pour le coup, c'est un peu plus casual. C'est un peu moins...
J'ai essayé le volant, puis très vite, le volant, je l'ai balancé. DS. J'ai pris la Wiimote et le Nunchuk à la main, puis je jouais comme ça, quoi. Parce que je trouvais ça beaucoup plus instinctif, beaucoup plus facile. C'est peut-être aussi parce que je suis un gamer qui a du mal à se débarrasser de sa manette. Hein. C'est possible, mais...
Je commence à m'y faire, moi.
Moi, je joue Wiimote Nunchuk, mais moi aussi, j'adore. Mais bon, voilà, quoi. Je préfère vraiment la version DS. Il n'y a pas à dire... C'est pas, je dirais pas casual, c'est pour que tout le monde joue. Donc, il y a des trucs qui ont été un peu... simplifié, et c'est le débat de est-ce qu'il y a autant de profondeur, pas de profondeur.
Par contre, tu peux jouer avec ton Mi et du coup, tu peux éclater, tout, tu peux éclater Yoshi en ressemblant à toi-même. Et ça, c'est plutôt cool.
Mais non,
personne n'éclate Yoshi.
Mais voilà.
si, moi je l'éclate Yoshi.
Non, mais en plus, il paraît que j'ai pas beaucoup joué online, honnêtement, mais il paraît qu'online, tout le monde prend les mêmes véhicules, le truc, donc bon. Et c'est les motos, c'est Mario Kart. Enfin bon, voilà. Puriste jusqu'au bout des doigts et des trucs, voilà. Mais bon, après, c'est une question de goût, quoi. C'est pas grave. C'est cool qu'il y en ait un sur Wii pour qu'il y ait plein d'autres gens qui
jouent. Ah oui, non, là-dessus, on est d'accord. On s'amuse quand même à jouer là. Mais une fois de plus, voilà, c'est un jeu auquel tu t'éclates quand t'es plusieurs. Et puis, bon, bah, quand t'es tout seul, tu fais OK, ouais, super.
Et justement, on parle de jeux là qui nous ont fait surkiffer. Ça fait un petit moment. Mmh. On en profite. Toi, t'as deux, trois trucs là dans ces deux dernières années, ces dernières années qui t'ont fait rêver.
Il y a eu Mass Effect qui a été pour moi absolument brillant, mais surtout au niveau scénario. J'avoue qu'au niveau du gameplay, j'étais un tout petit peu déçu parce que très vite on fait les mêmes actions tout le temps. Puis en plus le design globalement, tu te retrouves toujours dans des caves qui sont les mêmes alors qu'ils ont créé un univers qui est juste mais monstrueux. Les mecs, ils ont pas créé une planète, ils ont créé une galaxie entière. C'est quand même bizarre que dans la galaxie entière tu tombes toujours sur les trois mêmes pièces. Ça, c'était le gros défaut du jeu. Alors par contre, il y a un scénario en béton armé, les combats en temps réel sont super. Qu'est-ce que c'est beau, sa mère, c'est un truc de ouf. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pris mon pied là-dessus. Enfin, surtout sur les personnages, pour ce qui est de la beauté de Mass Effect. Sur les décors, c'est moins convaincant. Et le scénario, je me suis éclaté comme rarement. J'avais l'impression de jouer à Babylon 5. Et je suis toujours aussi fan de Babylon 5. C'est plus génial.
Ça n'a pas changé.
Donc, il y a eu celui-là. Bon, là, j'y ai pas encore joué parce qu'il vient juste de sortir. Mais je pense que dès que je vais partir d'ici, je vais me mettre à MGS4 parce qu'il ne faut pas que déconner dans la vie. Hein. Je vous aime bien, mais pas suffisamment pour rester avec vous toute la nuit non plus. Hein, MGS4.
D'accord, mais ça, tu n'as pas encore joué, donc arrête de le vendre avant d'y avoir joué.
Il est forcément génial, ok, c'est MGS. C'est pas compliqué, tu vois, il y a des choses comme ça, il y a des évidences.
Kojima is God.
Voilà, Kojima est un dieu. Voilà, c'est dit, il fallait que ce soit répété une bonne fois pour toutes. Kojima est génial et Shinkawa aussi. Voilà.
Toi, Tommy, tu joues à quoi?
Moi, je suis tombé dans des jeux, quoi. De toute façon, c'est toujours comme ça. Moi, j'ai un problème, c'est que je suis un complete mania. Donc, déjà, j'ai une leçon de vie totale. Avec Animal Crossing, qu'il y a à peu près un an et demi, j'avais pas eu le temps de jouer à la sortie et je suis tombé dedans. Et heureusement qu'il n'y a pas de compteur d'heures parce que je pense que vaut mieux pas en fait. Parce que c'est juste, je crois que ça se chiffre au-delà des 600, 700. Je suis parti aux Maldives et tout. Et quand j'étais aux Maldives, j'avais l'impression d'être sur l'île d'Animal Crossing. Enfin, c'est grave quoi, tu vois, les palmiers, tous les trucs. Je connaissais tous les personnages et je voulais tout collectionner. J'avais tous les insectes du musée, j'avais tous les os, j'avais tous les poissons. Déjà, j'avais bien cartonné quoi. J'avais vraiment énormément de trucs parce que des centaines d'objets, des papiers peints, des milliards de trucs à collectionner, les photos de tes amis, des milliards de trucs. Oui, et j'ai fait ça pendant 6-7 mois, et un jour, je me suis dit qu'en fait, Nintendo m'avait donné une leçon de vie, c'est qu'on peut pas tout avoir pour être heureux dans la vie. Donc, en tant que complete mania, ça a été une sorte de... J'étais ébranlé. Donc,
j'ai pris
600 heures et t'as pas tout.
Ah non, mais t'es ouf, quoi, mec.
J'ai pris une leçon de vie.
La légende dit qu'il y aurait 3 ans de gameplay, sans déconner, quoi. Je suis désespéré.
C'est une bonne durée de vie, quand même, 3 ans.
C'est pas mal, ouais. Non, j'ai pris une leçon de vie aussi, personnellement, quand j'ai joué à God of War 2. Je me suis dit qu'on pouvait fondamentalement éclater les gens dans la joie et la bonne humeur, et ça quand même c'est cool. Sinon, elle est moins poétique que la tienne, mais ça reste vrai. Hein.
Non, mais c'est toujours comme ça, il y a toujours un petit décalage. Donc moi j'ai plus joué à Mario Galaxy aussi, plus rose.
Galaxy, machin, c'était un grand kiff pour moi aussi.
Ça a été un plaisir.
J'ai très peu joué.
Moi c'était.
Je l'ai chouré à Tommy, mais je l'ai pas.
J'adorais, c'était tellement frais, tellement bon. T'avais l'impression de voir plein de jouets associés, tu te marres avec ces trucs-là.
Une nouvelle fois, juste le plaisir du gameplay. Trimballer le perso de planète en planète.
En parlant de jeux que je choue aux autres, tu dois me prêter Call of Duty 4 depuis une éternité. Hein. Faudrait peut-être que tu te mines. J'ai toujours pas joué, c'est malin. Bravo.
C'est très bien en plus.
Moi, ouais, nous, un petit truc que je veux. Call of Duty 4 sur PC. Vachement au taf tous les midis. On a été intoxifié jusqu'à ce qu'il nous soit conseillé de peut-être passer un autre jeu avant de devenir totalement con.
C'est trop tard.
Pas tout à fait tort, ouais. Mais celui-là, c'était la folie, quoi. La folie. Il est super, le mode online de Call of Duty 4. C'est les mécanismes RPG, tous ces trucs-là. Donc, ça, c'était le kiff absolu. Il y a d'autres. Il y a Wii Sport. On a fait des nuits blanches, mais. Putain, mais à s'énerver aussi à des degrés, mais une puissance hallucinante. C'est Thierry m'a quand même accusé un soir d'être son voleur de chounes officiel.
Non, c'est vrai, c'est un aspirateur à chounes. Il vole la chounes des autres personnes.
T'es assis à côté de lui, tout d'un coup, pouf, t'as plus de chounes.
Lui, il fait genre un trou en un, genre impossible, genre avec la balle qui bug.
Sur une feuille, ça.
Oui, voilà, ce genre de choses. Et toi, ensuite, le coup le plus facile de la terre, tu le manques.
Ça, par contre, c'est parce que
un oiseau est venu embarquer ta Wiimote, quoi.
Et mon moment le plus magique en bug que j'ai vu, c'est aussi sur Wii Sport, mais pas avec toi, avec un mec qui s'appelle Seb. On jouait à Wii Sport une nuit complète aussi. On a eu ce qu'on appelle une couille au poteau. Il a tiré de loin. Alors, c'est, tu sais, quand tu joues au golf, dans le trou, il y a le petit drapeau là, ouais. la truc. Et on a cru, il tire de loin, elle rebondit, elle colle le poteau et elle reste comme ça. On a cru que le jeu avait crashé, que bon voilà, c'est ok, bug sur la Wii. Et au bout de quelques secondes, elle a commencé à glisser le long du poteau et elle est arrivée dans le trou. Et là, genre, ça, si c'est pas surréaliste comme
Alléluia
moment.
Pour le mec.
Voilà.
Quand même.
Donc il y a pire que moi.
C'est pas mal. Sinon, moi, en ce moment, j'ai craqué sur GTA 4. Quoi. C'est vraiment super bon. Quoi.
C'est pour ça qu'on n'arrive pas à joindre depuis 3 semaines.
Mais non. J'ai presque fini, là, mais j'ai pas le temps là, de mettre les dernières heures nécessaires pour le terminer. Mais ça a été une bonne surprise. Plein de niveaux, scénario, visuel.
Fais gaffe quand même, parce que le jeu vidéo, ça rend violent et après tu vas devenir
je suis extrêmement violent.
Si tu joues 3 GTA, hein, c'est bien connu, hein, j'ai vu ça aux infos, moi.
Et puis des jeux plus zen aussi, Lost Wind sur WiiWare. Vraiment une bonne surprise, excellent. Soul Bubbles sur DS.
Il y a un petit jeu français sur DS qui est sorti fin de l'année dernière qui s'appelait Nervous Breakdown qui était vachement bonheur, bien. Les mecs qui ont développé ça, visiblement, ils avaient 3 euros, les pauvres de budget, quoi. Mais ils avaient des pures idées et le jeu est super sympa.
J'ai fait une overdose de jeux DS, quoi. Il y en avait tellement là pendant une période où on RPG les machins,
Zelda,
tu passes une
Zelda. Juste brillant, quoi.
Zelda.
Non, mais c'était.
D'accord, t'as l'air d'un con dans le métro à souffler sur ta DS ou à lui parler. D'accord, mais qu'est-ce qu'on se marre.
Et puis, d'accord, on parle de Next Gen et tout, mais il y a eu Final Fantasy 12 sur PlayStation 2. Alors ça a été un kiff, mais l'explosion, quoi.
C'était pas mal, mais j'ai quand même plus kiffé en fait le temps passé sur Dragon Quest 8.
Ah oui, non, mais encore plus, ouais, mais ça, moi j'étais encore
j'adore,
à Game One, j'ai saoulé tout le monde avec ce jeu.
Là, crois-moi, il était encore à Game One, donc il en parlait absolument. Tous les jours, on nous racontait où il en était. Et les pauvres spectateurs aussi, ils avaient le droit au résumé tous les jours. Le mec n'est pas pénible.
Petite recette.
Non, mais moi aussi, je préfère Dragon Quest 8. Mm. Il est plus fun. L'attaque du slip, déjà, reste pas infinie, quoi, tu vois. Juste pour ça. Julien a l'air dépité.
On peut peut-être quasiment conclure là-dessus, non?
L'attaque du slip. Normalement, ce qu'on faisait quand on bossait à Game One, c'est que quand on était au café et que Thierry disait une grosse connerie, du coup on se mettait à aller bosser. Ce qui arrivait systématiquement tous les matins.
Et là, ce sera le tour de Tommy.
Et là, c'est le tour de Tommy, tu vois, ça change un petit peu.
C'est un honneur, je suis content. Bon, on doit conclure, hein, je pense. Il n'y a plus de bande, c'est ça?
C'était LDR.
C'était LDR.
On lit les instructions.
Votre avenir avec le public.
Attendez 2 secondes. C'est vrai qu'avant de commencer l'émission, parce qu'il faut dire qu'Alex, il a pris son temps et puis qu'il a emmené un matos de psycho. On vous rappelle, c'est Sportbilly. Il nous a sorti d'une valise, une sorte de studio portatif. On regardait un livre. Tu te souviens des trucs, toi, Julien, là?
Dans Entertainment.
Pour savoir si on est un geek. Dans Entertainment, c'était quelle page? Page 1100 ou 10100?
Les pages en binaire, j'en sais rien, moi.
Merde. Alors, putain, ça va pas être facile. Vite, je cherche la photo du Seigneur des Anneaux. Désolé pour...
Bon, pour répondre à la question qu'a posé Alex, le maître de cérémonie de ce soir, l'avenir avec le public, il n'est pas compliqué. Tommy, vu qu'il travaille avec Ubisoft, il y aura son nom sur les jeux, donc vous pourrez continuer à suivre ce qu'il va faire.
J'espère juste que j'aurai contribué à vous donner un petit moment de magie. Ça me ferait bien du plaisir là, de vous donner un petit kiff sur un jeu vidéo, un truc de fou. Quoi.
Nous aussi, on l'espère bien en même temps. Parce que si tu nous offres un jeu pourri, nous on te connaît, donc on te pètera la gueule. C'est comme ça.
Ouais.
Donc Thierry, vous continuerez beaucoup entendre parler de lui, parce que toi, t'es sur No Life. Je sais pas si on te verra ou pas. Ça, c'est...
Je sais pas, de temps en temps. Ensuite,
en tout cas, on pourra entendre ta voix d'une beauté exceptionnelle, et ça, quand même, c'est un vrai plaisir de tous les jours. Et bah pour moi, par contre, je sais pas. Vraiment, je sais pas, puisque là, je suis vraiment sur autre chose. J'aimerais bien revenir dans le jeu vidéo parce que ce monde me manque un peu, mine de rien. Quand je suis arrivé sur Game One, je pensais pas que ce monde me manquerait un jour. Puis comme quoi, hein, on évolue ou on régresse, je sais pas. Je régresse peut-être un peu, moi, en fait. Mais j'adore le jeu vidéo.
Je
voilà.
Pas dire.
Je t'emmerde. six fois. Il faudrait que j'arrête. Hein. Et voilà, bah, c'est à peu près tout, quoi.
C'est donc, plus drôle à lire. C'est plus drôle à lire. Il n'y aura pas de geek machin là.
Donc en gros, tu viens de parler pour rien.
Merci Tommy.
Comme d'habitude.
Pour ce grand moment non sensé. Bon, bah, salut tout le monde.
C'est tout ? C'est fini là ?
Ouais, je crois,
on doit arrêter de parler, c'est génial.
Si on peut quand même remercier le gars qui va mettre ça sur son site. Hein,
ouais,
on va trouver sa bande passante pour ce jour.
Merci Michel.
Merci Shelmy.
Voilà, merci Michel.
On
et puis merci Alex. Et puis si vous avez supporté jusque-là, vous êtes quand même super courageux. Donc merci à vous.
Et puis un petit dernier merci quand même à tous les gens de Game One à l'époque parce que c'était une super belle aventure. Bisous. Ciao.